Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Rentrée parlementaire ce 15 mars à Kinshasa, cette session est essentiellement consacrée aux réformes législatives majeures et s'annonce décisive pour l'avenir institutionnel du pays à cause de l'agression de la RDC par le Rwanda, signale le rapporteur de l'Assemblée nationale. Un militaire ivre tue 4 personnes et blesse 3 autres. Cela s'est passé hier soir, non loin de l'aéroport de Bounia. Mécontents, des étudiants sont descendus dans la rue pour dénoncer le comportement des FARDC censés protéger la population. Ils ont été dispersés par des tirs de sommation et le suspect est aux arrêts. Et puis, cambriolage à répétition à l'université de Kisangani. Dernier cas en date, la nuit de dimanche à lundi dernier. Les enquêtes diligentées n'ont donné aucun résultat jusqu'ici. Pour en parler, nous recevons le recteur de l'UNIKIS, le professeur Jean-Faustin Bongilo Boendi. Madame, Messieurs, bonjour. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux et les sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle ce samedi 15 mars. En marge de cette rentrée, la conférence des présidents tenue la veille a validé l'avant-projet du calendrier des travaux prévus pour cette session. Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, cette session sera essentiellement consacrée aux réformes législatives majeures et s'annonce décisive pour l'avenir institutionnel du pays, d'autant plus que la RDC s'est fait face à l'agression de son voisin le Rwanda et de ses supplétifs du M23 AFC. Le rapporteur de l'Assemblée nationale explique, professeur Jacques Joly, au micro de Michel Kifindangoy.
Conformément à l'article 115 de la Constitution, l'Assemblée nationale va commencer samedi 15 mars 2025, procéder à l'ouverture de la session ordinaire du mois de mars. Cette session ordinaire intervient à un moment particulier où une partie du territoire national est occupée par l'armée rwandaise, appuyée par ses supplétifs du M23. Sur ce point, la plénière devra suivre le rapport de commissions spécialisées, notamment la commission défense et sécurité qui a eu à travailler pendant toute la durée de l'intersession. Nous allons aussi écouter la commission ECOFIN qui devra nous présenter les rapports sur les différentes mesures prises au niveau de l'exécutif, les orientations sur la réduction du train de vie, sur la réorientation de moyens au niveau de la défense, sur la gestion des ressources mises à la disposition des responsables de la défense.
Parlons à présent de la rentrée politique du parti AFDCA. Son autorité morale, le sénateur Bahati Lukwebo, s'est dit vivement préoccupé par la situation sécuritaire, politique et sociale dans le pays et invite la CPI à sanctionner les auteurs des milliers de morts victimes de la guerre dans l'est de la RDC. Au cours d'une matinée politique hier vendredi, l'AFDCA a dit réaffirmer son soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi, au FARDC et au Wazalendo et rappelle qu'il était le premier à organiser une grande mobilisation de la jeunesse pour les inviter à adhérer dans l'armée. Bahati Lukwebo dit soutenir toute option militaire, politique, diplomatique et économique visant à rétablir la paix. Il salue à cet effet le vote de la résolution 2773 et l'implication de toute la communauté internationale pour ramener la paix dans l'est de la RDC. Modeste Bahati Lukwebo est au micro de Michel Kifindangoy.
La matinée politique de ce jour, qui ne doit pas être confondue avec la vague d'action à laquelle nous assistons ces derniers temps, s'inscrit non seulement dans le cadre de la rentrée parlementaire, mais aussi et surtout pour soutenir nos forces armées et le commandant suprême. L'AFDCA et son autorité morale soutiennent tout schéma qui pourrait conduire à une paix rapide et durable, notamment la solution économique, le processus de Luanda, de Nairobi, le pacte social 5OSC, la cohésion sociopolitique. L'AFDCA fustige l'inversion des valeurs qui prend de l'ampleur. Les flatteurs et les courtisans prennent le dessus sur les véritables patriotes loyaux et ceux qui représentent les grandes forces politiques.
L'actualité, c'est aussi cette bonne nouvelle pour les populations du Kwilu et du Nord Ubangi. Le calendrier tant attendu pour les élections de gouverneurs, vice-gouverneurs et des sénateurs de ces deux provinces vient d'être publié par la commission électorale. Selon un communiqué de la CENI signé le jeudi 13 mars, le processus ira du 17 mars au 24 avril de l'année en cours. Le même communiqué rappelle que la mise en œuvre de ce calendrier électoral est conditionnée par la mise à disposition à temps des moyens financiers nécessaires. Détail avec Irène Boma.
Conformément à ces communiqués de la CENI, du 17 au 26 mars 2025, c'est la période d'accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes au niveau des secrétariats exécutifs provinciaux de la CENI. Le 29 mars interviendra l'affichage des listes officielles des candidats et marque aussi le début de la campagne électorale qui va s'étendre jusqu'au 31 mars. Quant au jour du scrutin proprement dit, sachez qu'il est prévu pour le 2 avril 2025. À ce jour même des votes, les résultats provisoires seront affichés et annoncés officiellement par la CENI. Du 4 au 11 avril, période prévue pour le dépôt des recours en contestation des résultats provisoires, cela devant la Cour constitutionnelle pour les sénateurs et devant les cours d'appel de Bandundu et de Gbadolite pour les gouverneurs et vice-gouverneurs. Le traitement des contentieux électoraux aura lieu du 12 au 18 avril, puis la publication des résultats définitifs va intervenir le 19 avril. Et enfin, le 24 avril, c'est la transmission des dossiers des élus au président de la République. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, en Ituri, 4 personnes, dont 3 agents d'une institution d'enseignement supérieur et universitaire, ont été tuées et 3 autres blessées le vendredi soir par un militaire en état d'ébriété. Cela s'est passé vers l'aéroport de Bounia. Pris de colère, certains étudiants sont descendus dans la rue pour dénoncer ce cas de violation des droits de l'homme par des FARDC censés protéger la population. Ils ont été dispersés par des tirs de sommation des forces de sécurité qui sont en alerte depuis hier pour le maintien de l'ordre public. Le récit de Isaac Remoyope.
L'auteur du drame fait partie des militaires des FARDC installés à l'aéroport pour attendre leur déploiement dans d'autres villes du pays. Armes en main et en état d'ébriété, il s'est promené sur l'avenue derrière l'aéroport très fréquenté par les étudiants de l'Université Shalom de Bounia et de l'Institut supérieur de technique médicale ISTEM Bounia dont les campus se trouvent dans ces quartiers. Subitement, ces soldats ouverts les fait sur un groupe de personnes qui étaient de passage. 4 personnes sont mortes sur place, dont 3 agents de l'ISTEM Bounia qui revenaient d'une réunion de service affirme son directeur général dans un communiqué public. 3 autres personnes ont été blessées et sont admises aux soins. Aussitôt après les drames, certains étudiants en colère ont envahi le boulevard pour se rendre à la juridiction militaire pour exiger que la justice soit faite. Ils ont été dispersés par des tirs de sommation de la police qui a ajouté la psychose dans la ville. Selon des sources de sécurité, le présumé meurtrier est arrêté et mis à la disposition de la justice militaire pour le procès à flagrance prévu le même vendredi et reporté à ce lundi à cause de la tension populaire. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Situation désastreuse en République démocratique du Congo. Les humanitaires signalent que les affrontements et l'insécurité dans l'Est continuent de nuire aux civils. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU l'a fait savoir lors de son briefing hier à New York. Au Sud Kivu, les humanitaires alertent sur le fait que la poursuite des violences dans les territoires d'Uvira et de Fizi a contraint près de 370 000 personnes à fuir leur foyer depuis début février. D'autres détails avec vous, Jude Mister Bilanda.
Des graves violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ont été signalées, dont près de 400 cas de violences sexuelles signalées à Uvira entre le 9 et le 25 février. C'est ce que nous indiquent les partenaires locaux qui suivent la situation. De son côté, l'UNICEF a déclaré que la poursuite des violences dans les provinces du Sud Kivu a entraîné une forte augmentation des violations graves contre les enfants. Parmi les cas avérés et des violations figurent les violences sexuelles, de meurtres, de mutilations ainsi que les recrutements et l'utilisation des enfants par des groupes armés. L'éducation a également été impactée avec la fermeture de plus de 1000 écoles dans la province, perturbant la scolarité de plus de 300 000 élèves. L'insécurité persistante et les déplacements des populations ont également contribué à l'aggravation de l'épidémie de choléra. Les autorités sanitaires ont signalé plus de 240 cas et 10 décès au 10 mars à Uvira. Toujours au sud Kivu, depuis le 3 mars, des affrontements dans les territoires de Walungu auraient contraint plus de 20 000 personnes à fuir. Elles ont un besoin urgent de nourriture, d'eau, d'abri et d'autres biens essentiels.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, la société américaine Alpha Mining BCA, Alpha Mine, annonce la suspension temporaire de ses activités minières dans le territoire de Walikale. C'est en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région, caractérisée notamment par l'avancée rebelle dans le territoire de Walikale. Plusieurs sources dans la région confirment l'évacuation du personnel de cette société. La société Alpha Mine exploite industriellement depuis plusieurs années maintenant l'une des plus importantes mines d'étain au monde. Mais que représente le site de BCA, Alain Roumouchinj?
BCA abrite l'un des gisements d'étain en teneur le plus riche au monde, selon les spécialistes en la matière. Le projet d'étain installé à BCA est le troisième producteur mondial d'étain. Il emploie environ 1 000 000 d'agents expatriés et locaux. Ce projet paye à l'État congolais des taxes, droits, impôts et redevances minières estimés mensuellement à plus $1 million. La présence de ce projet et de la société Alpha Mine contribue significativement à l'économie locale en s'approvisionnant auprès des petits marchands. Plusieurs autres activités génératrices de revenus sont menées autour de ce site et contribuent également à la maintenance de la route Lubutu-Kisangani-Beni-Kasindi. À travers sa piste d'atterrissage, ce projet contribue au déplacement des autorités administratives et autres personnes intéressées, alors que Walikale est le territoire le plus enclavé de la province. Voilà les quelques avantages du dit projet pour le territoire de Walikale et pour la RDC en général. Officiellement, la société Alpha Mine exploite seulement l'étain. Cependant, d'autres sources parlent de l'exploitation d'autres minerais. Signalons que le territoire de Walikale regorge de plusieurs ressources minières, telles que l'or, le diamant, la cassitérite, le wolframite, le niobium et le manganèse. D'autres spécialistes parlent même des traces d'uranium.
Autre nouvelle, les FARDC ont organisé jeudi une marche d'endurance et d'aptitude physique dans la ville de Kalemie. D'après la presse militaire, il s'agit de renforcer les capacités physiques des militaires. Ces derniers sont déterminés à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. À l'issue de cet exercice physique, le commandant de la 22e brigade des FARDC dans le Tanganyika s'est adressé aux hommes en uniforme au cours d'une parade militaire. Reportage de Paulin Munanga.
Plusieurs éléments des FARDC portant de nouvelles tenues ont parcouru les principales artères de la ville de Kalemie. Selon une dépêche de la presse militaire, la province du Tanganyika est renforcée par de nouvelles unités. Les éléments de la garnison de Kalemie ont été déployés pour un exercice physique de routine et d'entraînement qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des capacités opérationnelles. Au cours de la parade organisée à l'issue de la marche d'endurance, le commandant de la 22e brigade des FARDC est commandant des opérations au Salaman, a fait savoir que cet exercice vise à assurer la population de la ville de Kalemie et de l'arrière-pays que les FARDC sont toujours prêts à défendre l'intégrité territoriale. Le général Fabien Dounia a rappelé la mission qui leur est assignée, celle de sécuriser la République, sa population et ses frontières. Il a aussi insisté sur le respect de la discipline militaire et des instructions de la hiérarchie.
Les agences du système des Nations Unies opérant dans le Haut-Katanga s'engagent à soutenir le gouvernement provincial dans son programme quinquennal de développement. C'est l'une des recommandations de l'atelier de consolidation du partenariat entre l'équipe multiprovinciale des Nations Unies et l'exécutif provincial du Haut-Katanga. Atelier tenu hier vendredi à Lubumbashi. Les deux parties se sont convenues de travailler en synergie et ne pas disperser les énergies et les fonds pour le bien-être de la population. Jean Gandou pour les détails.
Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a commencé par présenter ses priorités. Il s'agit notamment des secteurs de la santé, des affaires sociales, des actions humanitaires, de l'agriculture et du développement durable, du genre famille et enfants, de la jeunesse, sport, loisirs, culture et arts, et enfin du plan de l'énergie, de l'environnement et du développement durable. Les agences du système des Nations Unies ont chacune expliqué leurs axes respectifs d'intervention. Pour la coordonnatrice de l'équipe multiprovinciale des Nations Unies dans le Haut-Katanga, il était temps d'harmoniser ce plan de travail entre les deux parties. Annie Chowa, chef de bureau de l'UNICEF Lubumbashi.
L'objectif, c'était de se rapprocher du gouvernement pour voir quelle est la stratégie du gouvernement en termes d'activité du développement et également présenter au gouvernement les stratégies de mise en œuvre des activités de toutes les agences du système des Nations Unies.
Le ministre provincial de la Santé, qui est aussi en charge de la coordination des agences du système des Nations Unies, a salué cette convergence des vues entre le gouvernement provincial et ses partenaires du jour. Joseph Sambibulanda.
Lorsque les partenaires s'alignent sur les priorités du gouvernement, il y a plus d'efficacité qu'agir de manière séparée.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Accès interdit à tous les lobbyistes et représentants du groupe Huawei dans les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles et Strasbourg, ce depuis hier, 14 mars. Le géant chinois des télécommunications est soupçonné des faits de corruption dans cette institution de l'Union européenne. Il s'agit d'une mesure de précaution avec effet immédiat, a indiqué une porte-parole du Parlement jointe par l'AFP. Le groupe des télécommunications compte actuellement 9 représentants accrédités selon le registre de transparence de l'institution. Est donc autorisé à rencontrer des eurodéputés. La décision intervient au lendemain d'une vague de perquisitions et d'interpellations dans une enquête pour corruption menée par la justice belge. Le parquet fédéral belge a fait état jeudi de 21 perquisitions menées à travers la Belgique et de 3 autres sollicitées au Portugal.
L'invité.
Un énième cas de vol signalé dans la nuit de dimanche à lundi dernier à l'université de Kisangani. Les représentants du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier dénoncent ces actes devenus récurrents dans cet établissement. Curieusement, les enquêtes diligentées n'ont donné aucun résultat jusque-là. Face à ces cambriolages à répétition, les autorités de l'UNIKIS ne se sont jamais prononcées. Pour en parler, Radio Kapi a approché le recteur de l'université de Kisangani, le professeur Jean Faustin Bongilo, s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Monsieur le recteur, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Il y a eu beaucoup de cas de vol au niveau de l'université de Kisangani. Je pense que c'est 3 cas de vol dont on parle. Mais jusque-là, il n'y a pas eu la réaction de votre part. Comment pouvez-vous expliquer cela?
Je ne sais pas ce qu'on appelle réagir. Si réagir, c'est écrire dans les réseaux sociaux ou faire des déclarations, pour moi, ce n'est pas ça.
C'est quoi alors, selon vous?
Réagir, c'est de prendre des dispositions. Et depuis que nous avons connu le premier cas, des dispositions ont été prises pour sécuriser la caisse. Mais hélas, malgré les moyens qui ont été mis à la disposition des services attitrés, cela a duré près de 2-3 mois que les dispositions n'ont pas été appliquées telles que nous l'avions voulu.
Quelles sont ces dispositions, monsieur le recteur?
Les premières, c'était, j'ai signé un document de tout bancariser jusqu'à nouvel ordre. Tout argent doit rester à la banque. S'il y a un peu d'argent à la caisse pour des dépenses, dès que la journée est finie, on consigne la différence à la banque pour éviter cela. Deuxième disposition, j'ai pris une mesure d'administration de suspendre celui qui a été chargé de sécuriser la caisse et qui a négligé son travail. Et le dossier disciplinaire est pratiquement en cours. Et je me suis décidé que je ne rentrerai pas à la maison tant qu'on n'a pas fixé les dispositifs de sécurité pour sécuriser la caisse et pour sécuriser l'ensemble du bâtiment administratif.
Monsieur le recteur, il y a quand même le service de gardiennage ici et même des éléments de la police. Comment on peut expliquer tous ces actes de cambriolage?
Les éléments de la police, le contrat pris fin normalement le 31 décembre. Mais nous avions prolongé, pour des raisons sécuritaires, nous avions prolongé le contrat avec la police nationale jusqu'au 28 février. Et depuis le 28 février, ce contrat est arrivé à terme. Mais nous avons nos agents de sécurité et je ne vais pas interférer. Ce qu'il y a, c'est que les agents qui étaient de service au moment où le cambriolage a eu lieu porte des responsabilités graves dans cette affaire.
Et l'argent, normalement, doit être placé à la banque. Ce qui a été fait, selon vos instructions, c'est qu'il n'y a pas eu vol d'argent ici.
Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu vol d'argent et je n'ai pas encore ici non plus les rapports complets. Mais ce qui a été volé, c'est de l'argent, mais ce n'est pas cet argent qui pourrait pousser les gens, par exemple, à décréter un arrêt de service et tout cela, parce que d'ailleurs, hier, plus d'une semaine après l'ordre que j'ai donné, les quatre, de pouvoir créditer les comptes, c'est seulement hier encore qu'à mon retour de Kinshasa, je trouve que les documents n'étaient pas encore en exécution au niveau de la banque, mais au moment où je vous parle, les comptes des agents vont être crédités parce que j'ai déposé ça hier.
Peut-on avoir une idée du montant emporté?
Je ne le dis pas au micro ici parce que d'autres services sont aussi dans cette enquête-là. Je ne donne pas le montant au micro.
Des enquêtes diligentées, aucun résultat n'a été publié, n'est connu.
Oui, je crois que ce n'est pas la première enquête dans notre monde ici, dans ce pays, dans cette province, dans cette ville. Il y a eu pire que ça et personne n'a jamais connu. Au moment où je vous parle, si j'hésite d'aller encore à la police, parce que vous allez à la police, les enquêteurs vont venir et ils ne vous donnent même pas les résultats des enquêtes. Ça décourage, mais nous tournons cette fois-ci du côté de l'administration et il y a des sanctions positives et des sanctions négatives qui sont prévues par les textes administratifs. Et nous allons recourir plus de ce côté-là.
Pour terminer, monsieur le recteur, quel message pouvez-vous lancer à la communauté universitaire?
Le message, c'est que je ne suis pas de ceux qui sont en train de pratiquer l'acharnement. Un acharnement contre la personne directeur que je suis. Un acharnement qui se montre par plusieurs moyens. Et je ne peux pas tout dire ici, mais c'est un problème d'acharnement. Pour que Bongilo parte, que quelqu'un d'autre vienne, mais je finirai par partir un jour. Et ce n'est pas tous ceux qui s'acharnent qui vont prendre les sièges. Ça sera toujours une seule personne qui probablement pourra aussi subir les sorts que je suis en train de subir. Mais ne me reprochant rien, je sais moi-même ce que je suis. J'ai fait mon travail.
Monsieur le recteur, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le recteur de l'université de Kisangani répondait aux questions de Jacques Moukonkolé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Radio Okapi. Akalimi. Okapi.